BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous, vous êtes sur BPM et c'est l'heure de votre émission l'association de la semaine. Et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être accompagné. Et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être accompagné par François Meurgue, président de l'association de combat médiéval La Compagnie Normande des Gardes du Roi. Bonjour François, comment allez-vous?
Bonjour, très bien, merci. Merci de me recevoir à nouveau pendant votre beau studio.
Ça nous fait plaisir de vous recevoir toujours avec une association qui sort du commun, j'ai quand même bien l'impression.
On sort de l'histoire, tout à fait. La Compagnie Normande des Gardes du Roi, anciennement et toujours section combat médiéval du CSADN Vernon, a été créée en 2015 et propose à l'ensemble des Vernonnais et des Érois la possibilité de faire du combat médiéval tout en se préoccupant du patrimoine. Nous avons trois missions essentielles, la partie sportive, entraînement familial autour des sports de lutte, d'affrontement pied-point, d'affrontement avec des armes classiques, épée, bouclier, lance, poignard, tout ce qu'on peut imaginer de l'époque, y compris des flots d'armes que nous sommes en train de reconstituer. La partie reconstitution des techniques de combat à partir des différents outils, et puis la partie préservation du patrimoine. Je sors à l'instant des comptes de la collégiale de Vernon pour déblayer ce qu'il y avait à déblayer. Donc voilà, c'est les trois missions principales de la Compagnie Normande des Gardes du Roi, qui est notre nom de scène et aujourd'hui association depuis le mois de mars. Nous avons organisé avec la mairie la foire de Vernon 2019, ce qui a été une riche expérience. Nous avons des projets dans les cartons, je reviendrai j'espère sur votre antenne pour en parler. La compagnie se développe avec une quinzaine de combattants réguliers et une cinquantaine de personnes formées dans toute la France. Nous essayons d'essaimer dans la mesure où nous allions le sport dans la bonne humeur et les techniques de neurocomportementalistes cognitives. Ceci nous permet d'accompagner des jeunes autistes et permettent d'assurer leur développement depuis maintenant 3-4 ans que nous les suivons.
On va revenir en plus en détail un peu plus tard sur tous ces points de l'association. On va revenir un petit peu sur le côté historique de votre association. Comment vous est venue l'idée de la création? D'où ça vient?
D'où ça vient? Alors ça vient de tout d'abord de ma pratique, hein, de ma pratique de lutteur. J'ai un palmarès de lutte olympique. Vice-champion de France junior, international.
Quand même
un petit peu, il me restait quelques restes. Je suis passé par la course à pied, marathon, 100 km, 24 heures, 6 jours.
Quand même très sportif. Quoi.
Très sportif. Alors, on aime relever les défis, on aime se poser des questions, se remettre en cause, et on va aux sources de l'histoire, donc Moyen Âge, Antiquité, avec des films qui sont des archétypes. Ivanhoé, Bénur, et là on se dit que comment ces gens combattaient, comment ces gens vivaient vraiment, lorsqu'on commence à devenir un petit peu plus sage, que le temps de la compétition s'éloigne, on se dit faisons cette école de chevalier plus mobile qu'on a toujours rêvé de faire, et puis une idée que ma fille m'avait lancée lorsqu'elle avait 9 ans. Papa, ah oui. Pourquoi tu crées pas une école de chevalier Playmobil pour que les enfants et les parents puissent jouer ensemble? Alors on se dit banco, c'est peut-être
ça
le moment.
Ça part d'une idée ludique, quoi.
Ça part d'une idée ludique, tout à fait. Et c'est tout à fait l'esprit de la compagnie, c'est que les parents et les enfants puissent jouer ensemble. On a des adhérents qui ont de 11 à 55 ans, sachant que ceux qui s'amusent le plus, c'est peut-être les plus anciens.
Je veux bien vous croire.
Voilà, et c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, chacun fait ce qu'il peut faire, c'est assez physique, mais avec l'entraînement, la bonne humeur, tout passe, il y a beaucoup de plaisir à chaque entraînement. C'est la récompense suprême de l'entraînement, c'est de voir enfin l'entraînement, tout le monde avec le sourire. Voilà, donc cette idée d'allier les sports de combat comme le systema russe, dont les origines sont le stenka, c'est-à-dire l'art populaire de combat russe, des steppes russes.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, oui, un petit peu plus en détail?
Alors c'est tout simplement une tradition, alors je parle sous le contrôle d'une experte, mais du moins ce qui nous est transmis en France, c'est que il y avait des traditions villageoises de se réunir tous les week-ends pour se préparer aux grandes invasions. Et donc les villages s'affrontaient dans des compétitions plus ou moins sportives, dans des bagarres générales et collectives.
Ou les bagarres carrément sans que ça soit spécialement organisé.
Sans que ça soit spécialement organisé, les villages se présentaient les uns face aux autres.
En mode Fight Club.
En mode Fight Club, tout à fait. C'était du MMA ouvert. On essaie pas trop esquinter quand même le village, mais bon, aussi il y avait parfois des coups perdus. C'est sûrement possible. J'ai pas fait de recherche à ce niveau-là.
J'imagine bien. Oui.
Voilà. En tout cas, c'est ce qui est à l'origine des sports modernes comme le sambo et le sambo combat.
Qui sont
des sports qui relèvent aujourd'hui de la Fédération Française de Lutte, qui permettent, le sambo est une forme de lutte, je dirais, adaptée au climat de la Russie. Donc ils ont une veste de judo sur un short. Le sambo combat, ils rajoutent les frappes pieds-poings.
D'accord.
Voilà, c'est donc sorti en parallèle du pugilat et du pancrace grec. C'est une forme russe de lutte et de combat pieds-poings. De MMA de l'époque, donc c'est une pratique que j'ai faite, le sambo combat.
C'est encore très répandu aujourd'hui ou...
Ça se développe beaucoup en France et en Russie, c'est effectivement à partir des années 75-80 où on a la résurgence des arts anciens, des arts martiaux anciens européens. Il y a dont le système A qui est connu aujourd'hui aussi en France. Ça se développe bien et c'est quelque chose qui est traditionnel. Les lutteurs caucasiens sont des lutteurs redoutables et effectivement il y a une tradition de lutte et de pugilat dans les steppes d'Asie centrale, on va dire. C'est l'occasion de passer la musique, hein, d'ailleurs. Dans les steppes d'Asie centrale.
Oui,
donc lutte, Systema, Stenka. Et je me dis, rajoutons ce qui manque, à savoir les outils de l'époque. Rajoutons les boucliers ronds,
les épées,
les lances, et voyons ce que ça donne.
Et même les armures.
Et même les armures. Donc on est compagnie multi-époque, on va dire 10e, 15e, on touche à tout.
D'accord.
Et on essaie d'avoir le geste le plus proche possible du réalisme, c'est-à-dire que ça marche ou ça marche pas. On est vraiment sur une démarche expérimentale. Et dans ce cadre-là, j'ai créé avec Saint-Marcel le CERAM, qui est le Centre d'études et de recherche des arts martiaux européens, qui supporte un peu toutes les activités qu'on peut avoir sur Vernon et Saint-Marcel. Donc le CERAM permet effectivement d'essayer de documenter nos recherches. Là, on est plus dans une logique d'arts martiaux européens, proche de la Fédération des arts martiaux européens, puisque faut le savoir, dans le monde médiéval, il y a beaucoup de fédérations, il y a beaucoup de chapelles, et j'essaye moi de faire la synthèse de tout ça. Fédération française médiévale, Fédération française de Modern Sword, Fédération française de Béour, Fédération des arts martiaux européens, Fédération française médiévale et renaissance. Les adhérents s'y perdent. Moi, ce que je veux, c'est de la simplicité et du plaisir. Donc, j'essaie de faire la synthèse de tout ça et je prends un petit peu partout ce qui plaît aux adhérents.
C'est un mix
de tout pour, je pense, être au plus proche de la réalité.
Le meilleur cocktail possible.
Voilà. Et donc, typiquement, sur la réconstitution des boucliers vikings, on a fait travailler un petit artisan de ma connaissance dans la Nièvre pour faire des boucliers vikings au plus près des modèles que l'on a sur les gravures, poids d'origine, poids identique, 4 à 6 kilos, en fonction des gabarits, puisque c'est déterminé directement par le rayon du coude.
Très bien, oui.
Et donc, ça permet d'avoir des sensations réelles. Lorsqu'on a un bouclier de 5 kilos, on va dire en moyenne, et une épée de 2 kilos, l'inertie n'est pas la même que lorsqu'on travaille avec du contreplaqué d'un centimètre d'épaisseur. Donc, voilà, on est sur quelque chose de réaliste, et donc les sensations sont les mêmes qu'on peut avoir à l'époque. Et donc, les gestes, la gestuelle est la même. Et donc, si la gestuelle est la même, le comportement est la même. Et le même, c'est un enseignement que l'on a des neurosciences, pensée, émotion, comportement, qui est un de nos piliers d'enseignement.
Et vous essayez d'instruire le même comportement aussi
Tout à fait. Puis là, on passe par ce que l'on connaît, à savoir les écrits, notamment les règles templières et hospitalières, puisque
D'accord.
nous sommes une école de chevalerie Playmobil, mais on est quand même une petite école de chevalerie, c'est-à-dire qu'on enseigne le mode de vie des chevaliers templiers et hospitaliers, qui sont pour moi les deux heures de majeur à connaître, avec des philosophies et des ésotérismes différents. Mais ça permet d'ancrer l'état d'esprit des combattants des premières et deuxièmes croisades.
Et quelles sont les différences que vous pouvez nous citer entre ces deux types de chevaliers ?
C'est la mission. la mission d'un côté, la mission des hospitaliers, qui est le premier ordre établi en Terre Sainte, à pas. Après, on va dire, les chevaliers du Saint-Sépulcre qui ont, eux, pour le coup, la mission de garder le Saint-Sépulcre. Les chevaliers hospitaliers, ils sont là pour soigner les gens, pour les aider, pour les assister au quotidien, pour apporter une santé physique
et mentale.
Et mentale. Tandis que les templiers sont plus là pour protéger les biens et les personnes, que ça soit sur place, dans les colonies autour de Jérusalem et dans le royaume franc d'Orient, et assurer la sécurité sur le voyage périlleux de l'Occident vers l'Orient. Et l'invention juridique de la lettre de change vient des croisades, puisqu'effectivement, plutôt que de transporter de l'or, la lettre de change permettait de déposer l'argent au comptoir templier et de récupérer l'argent une fois que le voyage était fait. Donc la lettre de change vient de là, nous sommes au début de l'économie moderne, je dirais, par la lettre de change. Donc voilà des exemples de ce que peuvent apporter les raids de chevalerie monastique qui sont là pour protéger et soulager les personnes.
C'est très historique quand même la manière dont vous
J'ai une approche historique, même si je ne prétends pas faire de la reconstitution.
Oui.
Je suis dans une logique de recherche. Je suis dans une logique de remise en situation. Mais je ne fais pas proprement parler de la reconstitution, c'est-à-dire que je ne vais pas aller gratter si la taille du bouton.
Oui. Très bien.
Voilà.
Ouais, oui, il y a des détails près non plus.
Il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes par période qui sont capables de vous donner le détail sur à 5 ans près. Voilà comment les gens étaient habillés. Qu'est-ce qui a changé dans le costume? J'ai pas cette prétention-là. Par contre, dans l'esprit, reconstituer l'esprit, donner un aperçu de ce que ça peut être que de porter une armure de 45 kilos complète au 15e ou d'être en chevalier 12e à 35 kilos, c'est des choses qu'on peut faire vivre et je passe effectivement par le ressenti corporel pour se mettre le temps d'un moment dans la peau du chevalier.
Là, j'imagine, vous parliez donc du coup que vous étiez très entre le 10e et le 15e siècle. Mais j'imagine qu'au niveau des équipements, c'est très différent selon les époques, non?
Alors, pas tant que ça, en réalité, puisque, on va dire, jusqu'au la fin du XIIIe siècle, l'équipement principal, c'est la cotte de maille.
D'accord.
C'est la cotte de maille. Et rapidement, les chevaliers francs qui se battent en Orient sont obligés d'alléger le costume, puisque combattre avec une armure, une cotte de maille de 35 kilos et un gambison rembourré
pratique, oui.
sous le soleil, c'est quelque chose qu'ils vont vite abandonner.
J'imagine bien, oui.
Voilà, donc les chevaliers templiers vont rapidement abandonner la cotte de maille pour les choses plus légères, et donc les techniques, les tactiques de combat vont évoluer aussi.
Et quelles sont les tactiques de combat du coup que vous éduquez
Alors nous, on s'entraîne beaucoup sur les murs de boucliers, pour ceux qui suivent les séries que l'on peut voir. Les murs de boucliers.
Alors qu'est-ce que c'est?
Les murs de boucliers, c'est la situation où un groupe de combattants va se protéger des archers adverses
en
se protégeant.
En mode tortue un peu.
En mode tortue, si on prend la terminologie romaine. Tout
si
à
on
fait.
Prend les BD d'Astérix.
Voilà, la tortue. Donc la tortue, le mur de bouclier sont des modes effectivement de commencement de la bataille. Ensuite, on va travailler sur ce qu'on appelle le hérisson romain, qui était un système de défense contre les charges de cavalerie, où on se rend compte qu'en combattant épaule contre épaule, s'il y a un combattant qui lâche, c'est tout le groupe qui s'écroule.
Un peu comme une mêlée au rugby.
Complètement. À part que c'est tourné vers l'extérieur.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc ça renforce la difficulté. Ensuite, on a bien entendu les différentes formations qu'on peut retrouver dans votre fameux Astérix. le triangle, le carré.
Oui.
Qui sont aussi des formations classiques défensives. Et puis il y a, je dirais, la mêlée où il n'y a plus de règles. On travaille beaucoup en mêlée circulaire. C'est-à-dire
D'accord.
qu'on part, on part sur le cercle extérieur de la zone de combat. On converge tous vers le centre pour conquérir le centre. C'est le dernier debout qui a remporté la manche.
Ok, d'accord. C'est une sorte de capture de drapeau.
C'est ça, tout à fait. Au centre, il faut rester debout au centre. Et là, on mélange tout. On mélange la lutte, on mélange les balayages, on mélange, voilà, c'est complet.
Une sorte de MMA chevaleresque. Quoi.
MMA chevaleresque où on essaie de ne pas se faire mal, puisque contrairement au Béhour, on n'est pas suréquipé.
Bien sûr.
En termes de protection.
Et comment vous êtes équipé du coup ?
On travaille principalement en gants bison côte de maille, et à l'entraînement, on travaille en t-shirt.
Très bien.
Donc ça veut dire qu'il faut avoir une certaine maîtrise des coups. La pratique du combat médiéval tel que nous le faisons à Vernon, c'est maîtrise de soi, maîtrise des coups, respect l'intégrité de l'adversaire.
Très bien.
Voilà, donc c'est porteur de valeur, c'est très important.
Et du coup, vous parliez en dehors des entraînements, alors j'imagine, et on va parler aussi des entraînements, qu'est-ce qui se passe pour un premier arrivant en entraînement ? Comment se déroule un entraînement ?
Comment se déroule un entraînement pour une première fois ? Eh bien, il est immédiatement mis au milieu du cercle,
ouais.
Pour recevoir un cours d'anatomie.
D'accord.
Que j'appelle le cours de boucherie médiévale.
Ah oui,
voilà.
C'est pas très vendeur. Hein.
Donc, on va effectivement démontrer les zones de frappe. Les zones de frappe sur les trois zones principales, les trois moteurs principaux, que sont la tête, le torse et la partie mobilité. Parlais de les jambes, tout à fait, les hanches. Donc les différentes zones de frappe, les différents angles d'attaque, ce qui est autorisé, ce qui est interdit, puisque la sécurité est une nécessité absolue pour notre pratique.
C'est primordial.
Sans respect de la sécurité, il n'y aurait plus de pratiquants, on ne peut pas se permettre.
Je l'ai bien imaginé. Et du coup, vous pratiquez ça pour leur montrer... comment se défendre ou pour leur montrer.
Il y a aussi effectivement nos modules d'échauffement sont des modules de self-défense.
D'accord.
Voilà, donc ça peut être pratique effectivement, savoir comment se dégager d'une foule un petit peu oppressante. On montre ce genre de choses à l'entraînement, à l'échauffement, à partir des bases de self-défense.
Est-ce qu'il y a différentes disciplines que vous enseignez ?
Alors on enseigne donc, on est la technique, le modèle de combat que j'ai mis au point. C'est pas extraordinaire, mais c'est un mélange donc de frappe pied-point, premier pilier, un modèle de lutte classique, les luttes, les différentes luttes, donc la lutte gréco-romaine, du type que j'ai pratiqué pendant, on va dire, 25 ans.
Donc vous êtes calé un peu déjà.
Je suis un peu calé, notamment avec mes triples titres de champion de France vétéran, puisque j'ai relevé le défi à 43 ans de remonter sur le tapis pour aller chercher les titres de champion de France.
Avec réussite.
Avec réussite, voilà. Donc des jeux de lutte, très ludiques. Avec des tentatives de reconstitution des luttes islandaises et scandinaves.
D'accord.
Voilà. Et puis le troisième pilier qui est le mouvement permanent et qui s'inspire, on va dire, du chorégraphe Laban, un chorégraphe est-allemand, développe la théorie du mouvement permanent autour de la sphère du mouvement, la kinésphère. Et ça donne des choses très jolies. Et très artistique, alors que c'est pas du tout notre vocation au départ, mais on se rend compte que le mouvement permanent en 8, le fait de bouger dans une sphère, comme l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, permet d'avoir une défense optimale.
Vous avez beaucoup parlé de lutte, j'ai l'impression que c'est très à la base de beaucoup de combats, non ?
Bah, c'est la base de beaucoup de choses, il faut quand même savoir que François Ier, lorsqu'il affronte Henri VIII au camp du Drap d'Or, au lieu de faire un combat à l'épée, fait un combat de lutte.
D'accord.
Et les Spartiates s'entraînaient en lutte. C'est pour ça que ça a toujours été un sport olympique, et c'est pour ça que les meilleurs combattants à l'épée bouclier, ou l'épée au lance bouclier, étaient des lutteurs.
Étaient des lutteurs à la base.
À la base.
D'accord. Comment se déroule du coup, vous avez la partie entraînement et c'est quoi l'autre partie du coup, une partie pas compétition mais une partie représentation, spectacle?
Alors, c'est plus effectivement, on est plus dans une orientation camp médiévaux où on se rassemble et on confronte aux pratiques avec d'autres compagnies.
D'accord.
J'ai emmené une partie de la compagnie cet été en Corrèze pour partager les pratiques sur différents modes de combat différents, avec notamment des praticiens d'art japonais. Et on se rend compte que finalement, les systèmes se rapprochent, même s'il y a des spécificités liées à la culture.
Mais la base est toujours la même.
La base est toujours la même.
Il y a beaucoup d'autres compagnies du même genre que vous en France ?
Alors, faire les choses telles que nous les faisons, il n'y a pas beaucoup de compagnies comme nous.
Ouais.
Il y a beaucoup de compagnies de Béhour, il y en a de plus en plus. Je ne ferai pas de commentaires spécifiques sur le Béour. Il y a des reconstituteurs de combats vikings. Donc oui, il y a de plus en plus de toutes fédérations confondues, il y a de plus en plus d'adhérents et de combattants. Après, c'est une question de philosophie. Et qu'est-ce qu'on cherche? Cherche-t-on à vaincre au risque de blesser ou cherche-t-on simplement à s'amuser et à reconstituer? C'est ma démarche.
Vous êtes plutôt dans la
deuxième
partie divertissement. Alors.
Divertissement, tout à fait.
Et quand se déroulent vos entraînements? Où est-ce qu'on peut vous retrouver aux
Alors, on peut me retrouver au plateau de l'espace, au campus de l'espace, au complexe sportif des Trois Chênes, les lundis et vendredis à 20h.
Très bien. Oui, allez-y.
Oui, et puis, bien entendu, vous pouvez nous suivre et je vous invite à le faire compte tenu des surprises que nous vous préparons. Sur la page Facebook de la compagnie Normande des Gardes du Roi, @CNGROY.
Très bien, c'est ce que j'allais vous demander en plus. Parfait, donc c'est le moyen le plus simple de vous contacter.
Tout à fait.
Que ça soit pour s'inscrire ou pour...
Ou pour venir simplement à un entraînement, voir comment ça se passe.
Et suivre vos futurs projets.
Voilà.
Merci beaucoup François Meurgue.
Merci beaucoup.
Et on rappelle qu'on pourra vous retrouver en représentation le 27 juin de 14h à 18h en partenariat avec le CSADN au complexe sportif des Trois Chênes. L'émission touche à sa fin. Passez une excellente journée à nous écouter sur BPM.